le masque et la plume. L'actualité des sorties en salle, c'est le sommaire de l'épisode de ce jour avec Muriel Joudet du journal Le Monde, Jean-Marc Lalanne des Inrecuptibles, Florence Colombani du Point et Christophe Bourseiller de France Inter. Au programme, la légende de Bob Dylan dans Un parfait inconnu, film de James Mangold, Isabelle Huppert en chapeau de paille à Séoul dans La voyageuse de Hong Sang-soo, le décor de l'Estac, donc la troupe de Robert Guédiguian dans son nouveau film intitulé La pivoleuse. Figurent aussi dans ce programme Jouer avec le feu de Delphine et Muriel Coulin et enfin la vie de Robbie Williams incarné par un personnage à tête de chimpanzé dans Better Man. Au théâtre de l'Alliance française aujourd'hui, nous accueillons les élèves des lycées Voltaire et Janson de Sailly. Bonjour tout le monde, bienvenue pour trois quarts d'heure de cinéma dans les oreilles. Mais que fait la police ? S'interroge Alexandre Merlot. Il fait partie des nombreux auditeurs qui déplorent le divulgachage des films à cette tribune. « Je propose, écrit Alexandre Merlot, que les contrevenants fassent un stage anti-divulgachage dirigé par Pierre Murat le repenti, puisque dans ce domaine, il a récupéré ses 12 points sur son permis. » Parmi les œuvres qui ont retenu votre attention cette semaine figure en première place « La chambre d'à côté » de Pedro Almodovar. Et le film provoque chez vous un enthousiasme nuancé. Mathilde Olivier écrit qu'à bien des égards, « La chambre d'à côté » peut être assimilée à une revue sur papier glacé, déco d'intérieur digne des pages d'un magazine de mode ou de luxe. Mais c'est avant tout un film sur l'amitié qui parle de toutes les fins de vie, de civilisation, fin de l'humanité, écrit cette auditrice. Bloquée sur la richesse du milieu social représenté par Almodovar, me gave, écrit textuellement Christophe depuis Vevey, en Suisse. Nos émotions ne s'accrochent pas aux héroïnes du film, mais elles nous renvoient à nous-mêmes, à toi, spectateur, de trouver la force de te demander si tu veux réfléchir à ta mort. Olivier Bayeux de Pantin choisit le vouvoiement pour s'étonner, litote, de la politesse touchante, je cite, dont vous avez fait preuve à l'égard du film Baby Girl d'Alina Rain, où Nicole Kidman jouit de se soumettre au fantasme d'un jeune stagiaire arrivé dans l'entreprise qu'elle dirige. Interminable clip publicitaire moralisateur, prude et anti-féministe, écrit Olivier Bayeux. Ce n'est pas du cinéma, c'est du rich porn, renchérit Max Schneider de Bruxelles. Tu fais un œil noir, Jean-Marc.
Oui, moi je ne suis pas d'accord, non.
Quant à Mylène Panarelli, après Baby Girl, elle aimerait un deuxième volet avec le vécu du mari et un troisième avec le vécu du stagiaire. Viva unanime pour « Je suis toujours là » de Walter Salles, qui triomphe au Brésil et qui rencontre ici un beau succès en salle. Pour ce récit, la disparition du député Rubens Paiva sous la dictature brésilienne, Georges Saline écrit par exemple « Justesse absolue » dans la description des réactions et sentiments des proches du disparu. Le film est porteur d'une émotion d'autant plus forte qu'elle évite le pathos. Enfin, deux auditrices, prénommées Véronique et Marie-Paul, sont d'accord, puisqu'elles sont allées voir Les Feux Sauvages du cinéaste chinois Jia Zhangke sur nos conseils. Et conclusion de l'une, c'est un film taillé sur mesure pour les critiques de cinéma, c'est-à-dire hermétique et soporifique. Conclusion de l'autre, une vraie purge. En revanche, Arnaud Sanquer estime que le film aurait mérité une palme d'or en parlant d'une ode au souvenir, au cinéma, à l'histoire d'un pays et à une femme. Et on me signale enfin que Jia Zhangke sera présent à Vesoul pour la rétrospective qui lui est consacrée dans le cadre du FICA, Festival International des Cinémas d'Asie. Jia Zhangke en Franche-Comté, c'est du 11 au 18 février. On commence avec Bob Dylan, incarné par Timothée Chalamet dans Un parfait inconnu de James Mangold. Pour rappel, James Mangold a déjà l'expérience du biopic de musicien, puisqu'il y a 20 ans pile, il réalisait Walk the Line, qui racontait la vie de Johnny Cash. Ce film-ci, Un parfait inconnu, couvre 5 années de la légende de Bob Dylan, depuis son arrivée à New York en 1961, jusqu'à son concert au festival de Newport en 1965, où il décide de passer du folk à l'électrique, contre les attentes de son public. 61-65, ce sont donc les années d'ascension de Dylan, sur fond de guerre froide et de guerre au Vietnam. Il est encouragé par Pete Seeger, l'une des figures de la musique folk, jouée par Edward Norton. Ce sont aussi des années où Dylan aime deux femmes, Suze Rotolo, rebaptisée Sylvie Russo à la demande de Dylan lui-même dans le film. Elle est jouée par Elle Fanning et Joan Baez, bien sûr, incarnée par Monica Barbaro. Finalement, depuis le début des années 2000, c'est le cinquième film consacré à Dylan, fiction et documentaire confondus, mais c'est le seul avec Timothée Chalamet, qui pourra peut-être permettre à la jeune génération de découvrir qui est Bob Dylan. Muriel.
Alors moi, je dois avouer que je ne sais pas encore ce que je pense du film.
C'est fâcheux.
Voilà, ça arrive hein, dans une vie. Mais je mets de côté un peu Bob Dylan, parce que je pense que n'importe qui regarde le film pense aussi tout le temps à Hollywood. Et en fait, le film passe son temps à vendre et à célébrer un savoir-faire, c'est-à-dire Hollywood qui est le spectacle hollywoodien arrivé à un tel degré de maturation qu'on peut cannibaliser n'importe quelle histoire culturelle, n'importe quel fait, n'importe grande icône. Et à ce titre, je trouve que le film est sidérant. C'est-à-dire que Timothée Chalamet cannibalise Bob Dylan, même s'il y a toujours un reste de Timothée Chalamet, mais quand même, on va jusqu'à prendre la voix de l'icône, du modèle qu'on copie. Et du coup, Timothée Chalamet chante comme Bob Dylan, alors qu'avant, pendant longtemps, la tradition était plutôt celle du playback. Donc tout le monde cannibalise quelque chose, on cannibalise aussi les années 60, l'imaginaire des années 60, et moi j'ai pensé à ça vraiment pendant 2h20. Et après, le film est entre les mains quand même d'un cinéaste qui est précautionneux, qui essaye de faire un film adulte, qui essaye de faire un film pédagogique, qui aussi, on le sent, essaye de présenter Bob Dylan à toute une nouvelle génération qui ne le connaît pas. Et à ce titre, je trouve que le film est extrêmement beau sur ce geste de cinéaste qui essaye de transmettre sa passion. Et il fait une part belle à la musique, c'est-à-dire que Bob Dylan, c'est d'abord la musique, et donc on va mettre au cœur du film la performance live et la chanson.
Et les textes et l'écriture.
Voilà, et les textes qui sont superbement sous-titrés, il faut le dire. Donc on a vraiment une émotion musicale, et c'est peut-être là que le film achoppe, c'est-à-dire que je n'ai eu que des émotions par rapport à la musique de Bob Dylan.
Et ce pas qui vraiment, est déjà pas mal.
Mais j'ai pas eu d'émotion de mise en scène, et je pense que c'est là que le film est quelque part aussi sur Hollywood, et le fait qu'Hollywood n'arrive plus vraiment à transmettre d'émotions, et a besoin de la musique, et que la musique vienne à son chevet pour qu'on ressente encore quelque chose.
Florence.
Oui, moi je voudrais souligner à quel point le scénario de ce film est d'une qualité exceptionnelle, et il est signé de Jay Cox, qui est un co-scénariste de beaucoup de films de Martin Scorsese. Or, Martin Scorsese fait partie des gens qui ont consacré récemment des films documentaires à Bob Dylan.
Deux documentaires.
Je pense qu'il y a là vraiment la clé de ce qui fait la réussite du film, c'est qu'il est très bien écrit, et notamment parce qu'il évite ce piège classique du biopic qui est d'alterner entre l'œuvre et la vie. Normalement, on a deux petites scènes de vie, une chanson, hein, ça c'est le rythme habituel du biopic. C'était celui totalement de Walk the Line de James Mangold. Là, pas du tout, il y a une sorte de flux de chansons, de flux de musique, comme disait Muriel, continue. D'ailleurs, la caméra bouge aussi, on est dans ce flux de créativité. Quand Bob Dylan se réveille le matin, il prend sa guitare, il compose, au milieu de la nuit aussi. Le triangle amoureux est représenté à travers des chansons, tout est dramatisé par la musique. Et donc, en ce sens, c'est un film qui incarne avec une vraie flamme la beauté de la musique de Bob Dylan et fait vivre cette poésie. Et il y a aussi ce côté grande chanson de geste de l'Amérique, puisque c'est ça la folk music aussi, c'est ce commentaire politique, cette narration, cette façon de se regarder soi-même et de regarder les autres. Donc en sens, je trouve que s'il y a une leçon à tirer sur Hollywood, c'est oui, Hollywood est encore capable de ça, et moi je ne le savais pas. Pour moi, c'est une très bonne surprise.
Et en tout cas, on n'écoute pas Like a Rolling Stone de la même façon en entrant et en sortant, je trouve. Christophe.
Ah, mais je suis tout à fait d'accord. C'est un film intensément poétique. Et c'est le grand défi de, non pas de Hollywood, mais de James Mangold d'avoir osé enchaîner 9 chansons de Dylan. Enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce film n'est qu'une musique perpétuelle et permanente. Moi, j'ai été emporté par ça. J'ai trouvé ça vraiment passionnant. Avec en plus une lecture très intéressante qui n'occulte pas la dimension sociale du combat. On voit aussi la complexité des personnages. C'est-à-dire à la fois Dylan très déplaisant et en même temps avec une espèce de folie poétique extraordinaire, enfin un talent qui explose autour de lui. On voit Monica Barbaro dans Joan Baez, j'ai trouvé extraordinaire, parce que c'est une Joan Baez cynique, très adulte, très mature, qui regarde cet enfant Dylan avec un regard presque maternel et qui en même temps est capable de sortir des chansons magnifiques. Et puis le tour de force des comédiens, parce que Timothée Chalamet effectivement a cannibalisé Bob Dylan, enfin moi je veux bien, mais enfin disons qu'il a surtout réussi à reproduire les chansons de Dylan de telle sorte qu'on n'a pas l'impression, enfin on oublie que c'est Chalamet qui chante. Et puis je voudrais quand même dire un mot sur Edward Norton
qui interprète Pete Seeger,
qui est un personnage très intéressant, qui était le défenseur du folk militant américain des années 60, mais qui quand même a l'intelligence de comprendre que Dylan veut aller vers d'autres chemins. Et la morale du film, moi je trouve, c'est qu'on se dit, mais finalement, Dylan a-t-il eu raison de passer à l'électrique? Je suis pas sûr.
Vaste débat, Jean-Marc.
Non, moi je suis beaucoup plus nuancé. C'est vrai qu'il y a des scènes de musique qui sont fortes, mais il y a aussi des scènes de couple. Et de ce point de vue-là, je trouve que le film de Mangold sur Johnny Cash était vraiment un grand film d'amour et un grand film de couple. Et là, je trouve que il réduit cette histoire d'un homme écartelé entre deux femmes à un badinage assez superficiel. Et moi, j'en veux beaucoup au film de maltraiter à ce point le personnage joué par Elle Fanning. C'est-à-dire que c'est pas seulement le personnage de Bob Dylan qui la maltraite, mais c'est aussi le film qui ne lui ouvre qu'un espace de récrimination. Elle est vraiment qu'un principe de reproche.
Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais Dylan, il y a un côté quand même, il n'a aucun sentiment, il se fout des femmes. Enfin, il y a
que mais je trouve que le film ne va pas assez loin dans la critique de la part de Vollery de ce personnage masculin qui effectivement fait ce qu'il veut avec les filles. Le film est vraiment effectivement très différent avec le personnage de John Baez et très cruel avec le personnage interprété par Elle Fanning. Par ailleurs, moi je trouve que sur la révolution électrique de Bob Dylan, je trouve que ce que dit le film est quand même très convenu, c'est-à-dire qu'il fait un partage entre les personnages, entre d'un côté Bob Dylan qui est un génie, un visionnaire qui va de l'avant, et le film vraiment va dans le sens du vent de l'histoire, et tous les personnages autour sont évidemment extrêmement conservatistes, ne comprennent rien à ce qu'il fait, et je trouve que le film nous place à un endroit un peu confortable. Mais je voudrais dire encore une chose, c'est que Timothée Chalamet est génial et que moi j'adore la manière dont il poursuit quelque chose de film en film, et moi j'ai beaucoup pensé au premier Dune, c'est-à-dire que c'est le même personnage d'élu, de personnage qui comme ça est touché par un génie qui est presque trop grand pour lui, qui doit affronter une destinée qui le dépasse, et la part d'enfance et d'enfance perdue qu'apporte Chalamet à ce personnage le rend bouleversant, et moi j'aime presque plus le film de Chalamet que le film de Mangold, que je trouve un peu plat.
Est-ce que quelqu'un souhaite prendre le micro dans le public pour participer à ce premier débat? Oui, bonjour.
Bonjour. Moi, je trouve que vous n'avez pas lu le livre de Suze Rotolo qui explique absolument les rapports compliqués qu'ils avaient tous les deux. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que j'adore maintenant les acteurs qui chantent vraiment et qui ne sont plus en playback. Voilà.
C'était donc Un parfait inconnu de James Mangold, et on passe au nouveau film des sœurs Delphine et Muriel Coulin. Il s'intitule Jouer avec le feu. Vincent Lindeau y tient l'un des rôles principaux, ce qui lui a valu le prix de la meilleure interprétation masculine à la Mostra de Venise. Lindon et Pierre, un cheminot qui élève seul ses deux fils à Villeru, en Lorraine. Dans le paysage, les hauts fourneaux éteints témoignent du passé sidérurgique et ouvrier de la région. Fousse, le fils aîné de Pierre, s'inscrit dans cette histoire, puisqu'il suit une formation de métallurgiste. Et Louis, son cadet, mène de brillantes études qu'ils feront monter à Paris, comme on disait chez moi. Très tôt dans le film, Pierre se rend compte que son fils aîné fréquente des militants d'extrême droite et adhère à des idées qui vont à l'encontre de l'éducation qu'il a reçue. L'amour de son père et de son frère peut-il sauver et éviter que Fousse ne bascule dans la violence? C'est l'une des questions posées par ce troisième long-métrage de Delphine et Muriel Coulin, qui, je crois, connaît un excellent démarrage en salle. Enfin, précision d'importance, Fousse est interprété par Benjamin Voisin et Louis, son frère cadet, par Stéphane Crépon. Christophe.
Écoutez, moi, c'est un film qui m'a profondément agacé, qui m'a vraiment mis hors de moi. Ça a été progressif. Hein. J'ai démarré comme ça en me disant c'est très beau. Et puis petit à petit, je réfléchissais au sens du film et je me suis dit mais il y a quelque chose qui ne va pas, parce que c'est une sorte de fable morale, moralisatrice, où on est à la place de Vincent Lindon, le cheminot humaniste, sympathique et tout, qui voit son fils devenir facho. Mais alors qu'est-ce que ça dit ce film? Ça dit d'abord, ça ressasse une idée à la mode qui identifie l'extrême droite, le populisme à la masculinité. Alors c'est un film dans lequel il y a quasiment pas de femmes. C'est que des hommes qui se frottent entre eux, d'ailleurs, énormément, tout au long du film, qui sont des espèces de skinheads luisants.
Parce qu'il est question des corps.
Tout à fait, ils se frottent beaucoup. Ce qui m'amène à une deuxième réflexion, c'est que c'est toujours cette tarte à la crème de réduire l'extrême droite et le populisme à une bande de skinheads luisants qui se frottent et qui se battent dans des espèces de combats à la Gladiator 2, les corps luisants dans le MMA, etc. Alors qu'on se demande si vraiment vraiment les populistes et des skinheads luisants, on se demande pourquoi ils sont aux portes du pouvoir aujourd'hui. Je trouve qu'il y a là une espèce de fantasme collectif ridicule qui détruit son propos. Et je dirais que ce qui est plus grave avec ce film, c'est le fait qu'on sent une espèce de fascination trouble. Mmh. Il y a un moment assez troublant où Benjamin Voisin a une phrase qui est quand même assez forte. Il explique son engagement et il dit « Liberté, pourquoi ? Égalité, pour qui ? Fraternité, laissez-moi rire. » Et là, je trouve qu'il y a quelque part, c'est troublant, c'est un film troublant. Moi, c'est ce que je trouve, qu'il y a une diabolisation onirique qui, à mon avis, induit une dangereuse fascination.
Florence.
Alors, Un monde sans femmes, que raconte le film, et une association entre le masculinisme et l'extrême droite, ça me paraît être très ancré dans la réalité. D'ailleurs,
Marion Maréchal sera ravie de le savoir.
Mais oui, parce que à peine Donald Trump a été élu, il a fait monter sur scène le président de la fédération de MMA. Il y a quand même un lien qui est réel entre ces discours masculinistes et un certain militantisme. Par ailleurs, le film ne se place pas à cet endroit-là du reportage sur comment on devient facho. Il se place dans une famille où on ne comprend plus ce qui arrive aux uns et aux autres. Et je trouve que c'est très beau la façon dont ce film articule l'intime et le politique en posant la question de qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un qu'on aime devient quelqu'un à qui on ne peut plus parler.
Ouais.
Je trouve que ça, c'est une question universelle. C'est des choses qui peuvent résonner très profondément dans le vécu des gens, et notamment parce que la famille que nous présente le film, grâce à un trio d'interprètes remarquables, existe profondément sur le plan émotionnel. On sent le lien entre les frères, on sent le lien du père à ses fils, et je trouve que, pour compléter cette histoire de masculinité, la façon dont il montre aussi ce que ça peut être le partage dans un match de foot entre un père et ses fils, c'est beau. Il n'y a pas de condamnation du masculin par principe. Il y a une condamnation de la dérive masculiniste qui est celle du personnage joué par Benjamin Voisin.
Muriel.
Moi, j'ai beaucoup pensé à Fight Club, même à Cruising, sauf que c'est pas Al Pacino qui découvre le milieu des club games, et c'est Vincent Lindon qui découvre que son fils vote pas Benoît Hamon. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, le film est vraiment construit comme ça, c'est-à-dire à chaque fois, on retombe sur le regard de Vincent Lindon. Et pour moi, c'est un film sur Vincent Lindon et qui a du mal à... C'est-à-dire que je suis d'accord avec Florence, c'est-à-dire que ce n'est pas le sujet, mais en même temps, c'est quand même le sujet, cette jeunesse qui se radicalise, et on sait que derrière cette idée de radicalité, il y a aussi peut-être l'extrême gauche, l'extrême droite. Bref, on ne sait plus, et le film ne sait pas quoi faire de cette jeunesse-là, et la filme sur ce mode, donc soit le MMA dans des cages, soit la boîte de nuit, et on a l'impression que le film a vraiment peur de se salir les mains. J'irai plus loin que Christophe, c'est-à-dire que le film nous dit quand même, si en gros, si t'as un BTS, il y a moyen que tu deviennes un facho, alors que si t'es à Sciences Po et que tu montes à Paris, tu vas finir par être de gauche. C'est quand même le discours du film. C'est-à-dire que moi, ça me dérange pas qu'on aille dans cet imaginaire masculiniste qui existe, mais il est quand même aussi, il construit contre lui-même un discours pro-élite qui me semble à l'image du film, c'est-à-dire inconséquent politiquement.
Mais à aucun moment le personnage d'étudiant à Sciences Po n'est donné comme étant de gauche.
Mais si, à un moment, il parle des migrants.
Non, ça, c'est son ami qui vient l'aider, qui est une sorte de tuteur.
Oui, mais je parle justement d'étudiants en Sciences Po. Bon, bref,
Il y a une mise en scène de la méfiance et de la défiance vis-à-vis des élites parisiennes aussi dans le film.
Moi, je trouve pas. Je trouve que la méfiance, c'est Benjamin Voisin qui l'incarne. Et surtout, moi, ce qui m'énerve encore plus, c'est Vincent Lindon. C'est-à-dire que le milieu radical d'extrême droite n'est là que pour faire de Vincent Lindon une sorte de père courage, de centre mou et de l'héroïser, en fait. C'est ça que fait le film. Et donc, je trouve que c'est totalement politiquement inintéressant comme personnage, Vincent Lindon, et cinématographiquement inintéressant.
Jean-Marc,
moi, je trouve que Vincent Lindon comprend vraiment extrêmement bien comme acteur. C'est-à-dire que je trouve qu'il a une densité, une présence qui fait que c'est vraiment un acteur assez passionnant. Mais par ailleurs, je ne trouve pas du tout que le film l'héroïse. Au contraire, c'est plutôt un constat d'échec. Il ne fait filmer que son impuissance. Pour moi, la limite du film, c'est précisément qu'il ne dépasse pas tellement le constat et l'impuissance. Il est dans la déploration de la radicalisation d'une partie de la jeunesse, et il n'esquisse ni vraiment une analyse, ni vraiment, évidemment, pas une solution. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très prudent dans le film qui est sa limite. Mais si la parabole, disons, sociale de la France est un peu frustrante et insuffisante, je trouve que le film est quand même très réussi sur la famille et vraiment par les moyens de la mise en scène. C'est-à-dire que ce que font les deux réalisatrices de cet espace de la maison, la manière dont elles font vraiment parler la maison en filmant des cloisons, des rampes, c'est vraiment une cage. Et elles filment trois fauves qui sont dans la même cage, parce qu'ils sont une famille et qui en même temps n'ont pas du tout les mêmes aspirations, qui passent leur temps à tourner en rond, on ne sait pas s'ils vont se sauter dessus, s'agresser, en même temps ils se reniflent quasiment. Il y a quelque chose de très fort sur l'enfermement que constitue d'être une famille, la passion qu'il y a et en même temps la violence. Et vraiment, par une stylisation, quelque chose qui est au bord du film noir, du fantastique, qui arrache le film à un naturalisme qui aurait pu être un peu plombant.
Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole pour participer au débat sur ce film ? Oui.
Je ne pourrais pas mieux dire que... Je ne sais pas comment vous...
Florence Colombani et Jean-Marc Ladame.
Voilà. Je ne pourrais pas mieux dire. Je trouve que c'est un film formidable. Et quand vous dites que c'est ce que ressent une famille quand on peut plus parler, quand on ne sait plus comment faire, je crois que c'est vraiment tout à fait ça. Voilà.
C'était donc Jouer avec le feu de Delphine et Muriel Coulin. Le film suivant s'intitule La Pivoleuse et il est signé Robert Guédiguian qui, comme vous le savez, fait de Marseille et de l'Estac un territoire de cinéma depuis plus de 40 ans. Et nous y sommes, à l'Estac, avec Ariane Ascaride qui joue Maria. Maria est auxiliaire de vie avec dévouement. Elle aide des hommes et des femmes âgées dans leur quotidien pour les courses, le ménage, les repas, autant que le moral. Entre elle et eux, s'est tissée une relation de confiance. Mais Maria leur pique un billet ou signe un chèque en leur nom. Bref, elle les vole. Parce que Maria tire le diable par la queue, comme dit sa fille. Son mari, qui est au chômage, perd énormément d'argent en jouant. Et coûte que coûte, Maria veut offrir à son petit-fils le rêve de devenir pianiste. La pivoleuse réunit une troupe qu'on voit mûrir et maintenant vieillir à l'écran. Jean-Pierre Darroussin, Gérard Mélan, Ariane Ascaride, que j'ai déjà citée, plus une nouvelle génération arrivée dans le cinéma de Guédiguian à la fin des années 2000. Je veux parler de Grégoire le Prince Ringuet, Lola Neymarck ou encore Robinson Stevenin. Florence.
Alors moi, j'ai apprécié le petit côté conte moral ou plutôt conte immoral à la Romer qui ferait un petit détour par Marseille du film. C'est-à-dire qu'en effet, il y a un jeu avec cette Maria jouée par Ariane Ascaride qui est une sorte de Vierge Marie à qui on donnerait le bon Dieu sans confession et qui en même temps vole. Et puis le ballet des personnages, voilà, cette petite musique de Guédiguian qui est quand même très plaisante. J'ai eu du mal avec le personnage du fils qui est quand même le moteur de l'action, qui est ce personnage joué par Grégoire le Prince Ringuet qui s'appelle Laurent et qui est une sorte de figure du désir capitaliste débridé. Il est agent immobilier, il parle que d'argent, il est odieux avec tout le monde, particulièrement avec son père. Et ensuite, un coup de foudre amoureux très improbable va faire qu'il devient une sorte de personnage fantaisiste qui saute tout habillé dans les piscines pour nous signifier à quel point il est capable de faire des choses folles. Et là, vraiment, moi, la croyance disparaît et le plaisir aussi décroche. C'est ce que j'ai regretté dans le film, c'est qu'il y a une génération qui est un peu la génération des vieux de la vieille, des films de Robert Guédiguian, qu'on a grand plaisir à retrouver et avec qui tout sonne juste. Et puis cette jeune génération et cet homme écartelé entre deux femmes, l'une qu'il désire, l'autre qu'il ne désire pas, et qui sont pour le coup pas traités de la même façon par le film, pas avec la même générosité, ça m'a vraiment gênée.
Jean-Marc.
Moi aussi, je trouve que vraiment le film est cassé en deux, il se casse en son milieu. La première partie, c'est vraiment brillant, c'est tout ce qu'on peut aimer chez Guédiguian, on retrouve son agilité très très grande à tricoter un récit, à mettre en scène des interactions complexes entre les personnages. J'aime beaucoup la manière dont il filme à la fois des liens de domination et des liens d'affection. C'est-à-dire qu'on peut effectivement travailler chez quelqu'un, prendre soin de lui, l'aimer sincèrement et en même temps le voler. Et cette complexité-là, ce côté marxiste sentimental qu'a chez Guédiguian me touche beaucoup. Et j'aime même la manière dont le personnage de Grégoire le Prince Ringuet au début est vraiment une sorte de principe de censure du désir de son père. La jeune génération, tout à coup, se venge ses parents lorsque s'inversent les liens de domination lorsque les parents deviennent vieux. Et ça, c'est assez fort. Mais tout à coup, il y a effectivement l'inoculation d'une intrigue amoureuse où tout à coup, il y a une romantisation du coup de foudre. L'amour transcenderait tout et tout à coup toute la dimension de manipulation et de domination de cette histoire-là, de cette histoire d'amour, est totalement édulcorée et tout à coup le film devient d'une très grande mièvrerie à mon sens et vraiment il se dissout complètement.
Tu as eu une sensation de mièvrerie, toi, Christophe ?
Non, j'ai pas trouvé ça mièvre du tout, parce que j'aime beaucoup la trajectoire vraiment impeccable de Robert Guédiguian. Je trouve que de film en film, il y a quand même une espèce de logique formidable. Et là, je dirais que ce qui m'a frappé dans cette histoire très ambiguë et passionnante de cette femme qui à la fois aime les petits vieux chez qui elle travaille et qui en même temps leur vole des choses en se disant, bah, ils en auront plus besoin. Je sais que ça paraît très immoral, mais la façon dont Guédiguian le traite à la Brecht. Il propose quelque chose, il ne tranche pas, et il nous dit, voilà la situation. Que feriez-vous à la place de cette femme? Elle est pauvre, elle veut que son petit-fils joue du piano. Il y a quelqu'un qui a plein de fric qui pose comme ça parce qu'il a beaucoup d'argent.
Il tranche parce qu'il est de son côté, quand même.
Et donc elle vole. Alors, c'est certainement très mal de voler, mais il nous dit, quand même, elle a ses raisons. Et j'ai trouvé que c'était très fort. Et je dirais qu'il y a un message social chez Guédiguian que j'aime beaucoup, qui est sans cesse une invitation à réfléchir.
Est-ce que tu as réfléchi à cette invitation, Muriel, toi ?
Oui, alors après, pour Guédiguian, c'est un système. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est très frontal avec son envie de nous édifier. C'est-à-dire qu'on doit repartir avec une morale, un os à ronger politique. Je le trouve de plus en plus précis avec le temps et de plus en plus libre aussi, précis sur la mise en scène. Chose que je trouve au début de sa filmographie, il ne prenait pas ça en charge. Et là, je trouve qu'il arrive à des moments complètement sidérants de beauté. Pour moi, c'est vraiment un cinéaste marxiste, très politisé, qui finalement fait entrer dans son film quelque chose qui n'était pas prévu et qui est la beauté. Et pour moi, le film parle de ça. C'est-à-dire, c'est un film qui nous dit en gros le luxe dans la vie, c'est l'essentiel, et qui nous dit en gros la beauté n'est jamais au programme et elle désorganise la vie.
Et que la beauté, justement, est un luxe qu'on peut s'offrir. Qu'on
voilà,
doit
c'est ça.
S'offrir.
C'est-à-dire que c'est même pas un luxe. C'est, voilà. Et je me souviens de Guédiguian qui disait, moi, je pourrais jamais réaliser Pretty Woman parce que un homme d'affaires qui tombe amoureux d'une prostituée, je n'y crois pas. On ne tombe pas amoureux quand on ne vient pas de la même classe sociale. Et là, c'est ce qu'il fait. Il fait son mini Pretty Woman. Et je trouve la scène entre Grégoire le Prince Ringuet et Marie-Lou Ossiou, qui est une actrice qu'il filme pour la première fois. Et ça, c'est très important chez Guédiguian parce qu'il a un système d'acteurs et quand il ramène un nouveau visage dans son système, tout de suite, c'est un nouveau monde et c'est un nouveau propos. Et donc, ils sont dans un rapport de dominant-dominé. Elle vient l'implorer de faire quelque chose. Et en fait, ça devient une scène d'amour. Et c'est là que d'un moment, j'ai l'impression vraiment que Guédiguian se critique lui-même quelque part. C'est à la fois le sujet du film et c'est à la fois la forme du film. Et ça, je trouve ça assez magnifique.
Il nous laisse juge.
Alors après, La Pivoleuse de Guédiguian, voici La Voyageuse du sud-coréen Hong Sang-soo avec Isabelle Huppert, actrice autant qu'autrice, a fortiori avec ce cinéaste qu'elle retrouve pour la troisième fois. Isabelle Huppert est Iris et en dehors de ce prénom, on ne connaît rien du passé de cette femme, des raisons de sa présence, en tout cas à Séoul. Elle donne, ou plutôt elle improvise des cours de français pour payer son loyer, qu'elle partage avec un jeune colocataire. Et pour ses cours, elle a une méthode à nul autre pareille. Elle apprend le français à partir des émotions de ses élèves et avec beaucoup d'alcool de riz. C'est un film avec peu, dont on emporte un plan au moins, celui d'Isabelle Huppert assise sur une terrasse en béton vert, avec un gilet de la même couleur, adossé à un mur et une clope à la main. Ce film a reçu le grand prix du jury à la Berlinale. Muriel.
Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé Hong Sang-soo pendant très longtemps et je pense que c'est un cinéaste exemplaire et admirable.
Donc là, t'as utilisé le passé.
Ouais.
Et maintenant,
non, ne serait-ce que parce qu'il a pris acte du numérique et du fait qu'à un moment, il fallait faire du cinéma, presque une industrie légère, il fallait tout faire du cinéma un art poids-plume. Et donc, il tourne des films sur 15 jours, les tournages durent 15 jours. Je crois qu'ils sont plus que 3 sur les tournages, voire parfois, il est tout seul. Et ça, je trouve ça admirable parce que je pense que beaucoup de cinéastes devraient en faire autant. Le problème, c'est que je pense qu'il a un peu fait le tour de ce monde qu'il a posé et je pense qu'on connaît bien. Pour moi, La Voyageuse, c'est un peu le premier film qu'il a fait avec Huppert, In Other Country, en moins bien ficelé. J'aimerais parfois qu'il passe plus de temps à écrire son scénario ou à tourner ou à chercher. En fait, les plans où Isabelle Huppert est seule, où on a vraiment cette vibration documentaire, où on a l'impression que Hong Sang-soo est une sorte d'en dehors de sa filmographie, de récréation par rapport à sa filmographie. Et ces moments où je sens vraiment que c'est plus que deux gosses qui sont en train de jouer ensemble avec une caméra, ça, forcément, c'est très beau, mais C'est des petits moments dans le film, c'est pas tout le film.
Est-ce que t'as gardé des images du film, toi, Christophe?
Ah bah, des images, vous voyez, quand je me suis réveillé un petit moment, oui, j'étais quand même la plupart du temps endormi. Hein. Alors, c'est un film expérimental, hein, je crois qu'on peut le dire, sans équipe technique, il était tout seul, c'est ce que Isabelle Huppert dit dans un interview, sans scénario non plus, donc vous voyez la force du truc. Alors je dirais que c'est Aung San Suu, il y a un côté un peu de godardisme, on pourrait dire, mais c'est surtout un élève de Bob Wilson. Et en fait, on le voit bien parce que Isabelle Huppert dans ce film m'a fait penser à Delphine Seyrig. Et en fait, elle est totalement décalée.
C'est pas bien.
Elle est totalement évanescente.
Mais oui,
elle est
flatteur.
Totalement irréelle. C'est-à-dire qu'on est, bah oui, mais on n'est pas du tout dans Isabelle Huppert présente ou incarnée. On est dans une Isabelle Huppert totalement désincarnée. Et l'impression que je me suis fait en voyant ce film, je me suis dit, c'est un peu la caricature d'un film expérimental dans un film comique. Quand on montre un film d'avant-garde dans un film comique, tu vois. Et alors, c'est un film que j'ai vécu comme un voyage au cœur de l'ennui, un ennui profond, viscéral. C'est un film qui dure 1h30 seulement, mais j'ai eu l'impression que ça durait 5 heures de branchouille. Et c'est un film que les médecins, à mon avis, devraient prescrire aux insomniaques. Je pourrais terminer comme ça. Alors en 2023, Aung San Suu avait fait un film qui était flou. Et là, il a fait un film totalement chiant.
Mais Jean-Marc Lalanne est je sans doute film, resté les yeux ouverts.
Oui, captivant de bout en bout. Quoi. C'est à la fois un film expérimental, mais c'est un film comique. C'est-à-dire que le film est à la fois très drôle, très malicieux, très espiègle. Moi, je le trouve jubilatoire, vraiment de bout en bout.
Les trois personnes dans la salle ne riaient pas.
Ah oui, mais en tout cas, moi, je riais. Et beaucoup, beaucoup. Isabelle Huppert est vraiment géniale et je ne la trouve pas du tout désincarnée. Elle a vraiment quelque chose d'unique chez Aung San Suu. Vraiment, il a libéré chez elle une sorte, elle est presque en ébullition tout le temps, j'adore sa manière de trottiner, elle est vraiment une sorte de lutin, un être féerique. Elle est merveilleuse, vraiment, et le plaisir de la suivre pendant 7h30, pour moi, il est immense. Je trouve que c'est un film magnifique sur l'éducation. C'est vraiment, ça reprend un petit peu les préceptes du maître ignorant qui a été théorisé par Rancière. C'est vraiment d'amener son élève à une situation psychique où tout à coup, il va découvrir ce dont, par lui-même, ce dont il avait besoin, et pour ça, il n'y a pas du tout besoin d'avoir un savoir.
Si bien qu'elle est prof autant que psy, d'une certaine
exactement.
Façon.
Exactement. Elle les amène à un point où tout à coup, ils vont avoir besoin de dire vrai. Des mots, elle leur donne ces mots. Et ce qui est très beau, c'est que c'est aussi une métaphore du cinéma pour Aung San Suu, c'est-à-dire vraiment faire un cinéma sans manuel, sans préceptes établis, avec juste le sens de ce qui surgit, de la surprise, de la réalité. Donc c'est à la fois un exercice merveilleux et la théorisation de cet exercice.
Florence.
Oui, moi j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé que ce personnage d'Iris était une sorte de magicienne qui convoque des émotions, qui réussit à faire exprimer leurs émotions à des gens qui n'y arrivent pas sans elle. Là, ce qui se passe, c'est des rencontres réellement spontanées, improvisées, avec une attention à des choses qu'on ne peut pas vraiment mettre en mots. Et quand on arrive à se mettre au diapason de cette émotion-là, on ressent quelque chose. Mais si, Christophe.
Oui, ben alors je ne suis pas mieux, je suis pas assez intelligent, tu sais.
Oui, c'est sûrement ça.
Pour que Aung San Suu.
Une intervention du public du Théâtre de l'Alliance Française pour ce film.
Alors moi, je voulais dire, moi je suis un fan hardcore de Bob Dylan, les trois premiers électriques. Je suis un grand amateur de Huppert. Mais ce que vous n'avez pas dit, le film dure 1h30, il y a 30 minutes d'Isabelle Huppert qui apprend le français en anglais à un coréen. Il y a 30 minutes suivantes où c'est le même plan avec un autre coréen ou une coréenne. C'est les mêmes dialogues,
c'est ça,
avec les mêmes réponses. Et vous avez une troisième partie d'une demi-heure avec un coréen, toujours le même plan fixe en bout de table, les mêmes réponses. Et là, vous dites, qu'est-ce qui va se passer? C'est fini.
Vous n'êtes pas sensible. Vous n'êtes pas sensible.
C'est un jeu sur la répétition et la variation.
Je savais que Monsieur Lalanne, fan de Chantal Akerman, allait adorer. Et Muriel a raison. Il est en fin de course. Voilà. C'est d'un ennui terrible.
Enfin, mais l'ennui fait partie du cinéma. Hein.
Voilà. Allez.
Je vous laisse avec cette phrase.
Ça se discute. Hein.
Une personne devant, au premier rang.
Moi, c'est la première fois de ma vie que je voyais un film de Aung San Suu. Et en fait, j'ai été hyper agréablement surprise. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'hyper pétillant, malicieux, comme vous le disiez. Et j'ai trouvé Isabelle Huppert hyper blasée vis-à-vis de ces femmes qui n'arrivent pas à exprimer ce qu'elles ressentent parce qu'on leur a jamais demandé. Et en même temps, du coup, il y a quand même quelque chose d'assez beau parce qu'elle les accompagne quand même là-dedans. Enfin, j'ai trouvé ça assez très simple, effectivement, mais assez réjouissant. Et donc, pour les personnes qui ne sont pas lassées de Aung San Suu et qui ont peut-être jamais vu, n'hésitez pas à y aller. Et j'en profite aussi juste pour placer un petit peu, c'est l'anniversaire de ma mère cette semaine. Et c'est avec elle que j'ai commencé à écouter Le Masque. C'est ses 60 ans, donc je lui fais un petit coucou. Voilà.
Eh bien, bon anniversaire, madame. C'est sur cet anniversaire qu'on va clore cette tribune dédiée à la voyageuse Dong Sang-soo. Et on termine avec Better Man, soit la vie de Robbie Williams, icône de la pop anglaise des années 90, réalisée par le réalisateur australien Michael Gracey. C'est donc l'histoire d'un gamin mal aimé par son père, qui grandit dans le nord ouvrier de l'Angleterre et qui rêve de célébrité. Le film raconte l'industrie des boy bands de l'époque, le parcours déjà filmé à plusieurs reprises de la pop star qui sombre dans la drogue et l'alcool, le tout ponctué par des tubes de Robbie Williams. L'un des objets du film est sans aucun doute de réactiver l'écoute de ses chansons sur les plateformes, et je crois que ça marche. Mais ce biopic détonne avec deux partis pris. Robbie Williams est le seul personnage du film dont le visage est celui d'un chimpanzé, et la voix off, assez sarcastique du film, est justement assurée par Robbie Williams lui-même. Jean-Marc.
Moi, ça m'a vraiment assez séduit. J'ai toujours eu de la sympathie pour Robbie Williams, donc j'étais assez content de reparcourir son trajet. Cette idée du singe, c'est vraiment une idée que je trouve assez puissante et j'étais tout le temps sidéré, en fait. C'est-à-dire qu'on n'épuise pas l'étrangeté et la bizarrerie de cette idée. Ouais. D'une part, je trouve que ça touche à quelque chose, à une réalité psychique de ce que c'est qu'un artiste, c'est-à-dire au départ, quelqu'un qui se sent un être à part, qui se sent coupé des autres. Et ça, c'est tout le temps visible à l'écran. C'est-à-dire, les premières scènes, on le voit, lui en singe, avec d'autres enfants, avec ses parents, on sent vraiment que l'artiste est la personne qui se sent différent des autres. Et ça, ça passe vraiment comme...
C'est-à-dire que le vilain petit canard, voilà, ici, exactement, est devenu un chimpanzé.
Exactement. Par ailleurs, je trouve que le singe, ça dit aussi quelque chose d'assez fort sur l'industrie du spectacle, et particulièrement l'industrie des boys bands, qui est vraiment envisagée du coup comme une sorte de grand Barnum, de cirque, où...
ça, c'est l'un des aspects les plus intéressants du film.
Devenir une star dans un boys band, c'est un processus de dressage, c'est devenir un singe savant, et là aussi, je trouve que l'idée du singe, elle est extrêmement productive. Et enfin, ce qui m'a vraiment beaucoup plus, c'est cette idée qu'au fond, le singe, ça dit la vérité de tout biopic. C'est-à-dire qu'un biopic, c'est toujours une star, par exemple Timothée Chalamet, qui va imiter une autre star, par exemple Bob Dylan. Et ce qu'on voit, c'est toujours une imitation, donc un peu une singerie. Et bien là, plutôt que de voir la singerie, on voit un singe.
Elle est assumée.
Et ça, c'est vraiment assez génial.
Muriel.
Moi, j'aurais préféré un chaton, tu vois, à la place du singe. Je pense que ça aurait cartonné.
C'est moins parlant.
Oui, non, mais très bonne défense. Je pense que tout le monde va se ruer voir le film parce que je trouve qu'il se ramasse complètement et ça me le rend très sympathique. C'est-à-dire que le film a coûté 110 millions de dollars pour une star, Robbie Williams, qui n'est pas connue outre-Atlantique, et donc ils s'en sont rendus compte, et en fait le film se ramasse complètement outre-Atlantique, et ça me le rend sympathique parce que tout est aberrant dans ce projet qui est d'emblée un peu suicidaire et très laid aussi, mais même généreux jusque dans sa laideur. C'est-à-dire que moi, y a rien qui m'angoisse plus que les animaux en image de synthèse, et là vraiment on se le tape pendant 2 heures. Le truc, c'est qu'on s'habitue quand même au singe, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment on finit par ne plus trop le voir et par s'habituer un peu à cette idée. Mais ce que je trouve généreux, c'est que le film se veut vraiment être un grand spectacle, et donc il trouve vraiment plein de choses pour être ce grand spectacle. Donc cette voix off qui vient d'enregistrements privés que Robbie Williams a donné au réalisateur, donc c'est vraiment une parole très libre où Robbie Williams ne se censure pas et ne s'épargne pas. Il y a ce singe, bon, qui est aberrant mais quand même marrant, et puis il y a l'utilisation des tubes de Robbie Williams. Il y a une utilisation dynamique des chansons, c'est-à-dire qu'on va pas vous expliquer comment il a fabriqué ces tubes, mais on va faire des grands tableaux avec ces chansons qui permettent de raconter sa vie. Et donc, on a des très grandes séquences qui ressemblent en fait à un spectacle de Broadway et qui sont assez sidérantes. Mais qui fait que, en fait, le film, finalement, sort toujours de ses gonds de biopic et toujours plus. Et ça finit par fonctionner.
Je me suis demandé si tu avais écouté Robbie Williams.
Je supporte pas la musique de Robbie Williams. Je supporte pas Texas. Je trouve ça insupportable. Alors, c'est le petit défaut pour moi. Sinon, j'ai trouvé que c'était un film effectivement virevoltant.
C'est-à-dire que bien que ne supporte n'entends pas Robbie Williams, bah tu oui. as quand même aimé.
Bah oui, j'ai mis les boules caisses quand il chantait. Et pour le reste, j'ai trouvé okay. que c'était un film. Non, c'est vrai, c'est filmé avec une grande virtuosité. Il y a même des scènes absolument démentielles, enfin des espèces de poèmes visuels. C'est très beau. C'est vraiment intéressant.
Alors on a la beauté à ma gauche et la générosité dans la laideur à ma droite.
Et si on met de côté, oui, mais je trouve, bah, et si on met de côté la musique, bien sûr, je trouve que le choix du singe se justifie totalement par l'histoire. Alors certes, c'est un peu gros sabot de dire je suis un singe savant, mais en même temps, je dois dire que ce qui est fort dans ce film, c'est qu'en fait, Robbie Williams, c'est le syndrome de l'imposteur, mais vraiment à son pinacle, quoi. C'est-à-dire que pendant tout le film, quand le singe est sur scène, il y a un singe dans la salle qui le regarde en disant « t'es nul ». Tu n'es qu'un nul, t'es un minable. Et c'est terrifiant ce que vit Robbie Williams. C'est-à-dire que tout le monde lui dit, vous connaissez le succès, vous êtes génial, vous êtes célèbre, etc. Et lui dit, non, je ne suis qu'une merde, je suis nul, je suis rien, je suis un imposteur, je suis là par hasard, je suis là par erreur. Et ça, j'ai trouvé que c'était très beau. Et la façon dont Robbie Williams, d'ailleurs, parle de lui-même avec une grande lucidité. Alors ça m'a beaucoup plu. Je dirais que c'est une autobiographie d'une grande sincérité qui rappelle un peu celle d'Elton John, Rocketman, d'autant plus que les deux chanteurs chante un peu de la même façon, et je les déteste autant l'un que l'autre d'ailleurs, mais donc je dirais que c'est un film réservé effectivement aux fans des boys band, des girls band, et de Robbie Williams, c'est le petit défaut.
Florence.
Réservé aussi aux fans des singeries, puisque j'ai appris que c'était le nom du genre pictural, qui consiste à représenter une scène avec des personnages humains, enfin transformés en singes. Et c'était un genre pictural très en vogue, notamment au XVIIIe siècle. Donc on est là dans une sorte de raccourci d'histoire de l'art ébouriffant qui nous ramène de Watteau à Take That, incroyable. Sauf que moi, je me suis habituée aux singes tout de suite. Alors je ne sais pas ce que ça dit sur moi, parce que vous, non, apparemment.
Ah non, pas du tout.
Mais alors moi, dès les cinq premières minutes, j'avais accepté que c'était un singe et je ne trouvais plus du tout ça bizarre.
D'accord.
Du coup, le film perd beaucoup, beaucoup de son intérêt hein, si on s'habitue aux singes trop
vite. Oui, c'est sûr.
Parce qu'on est sur des rails, le milieu ouvrier anglais, la grand-mère très très gentille, comme il y en avait une dans le biopic d'Amy Winehouse. La grand-mère a l'air d'être un personnage comme ça de la maisonnée anglaise très important. Et puis la drogue, et puis c'est dur d'être célèbre.
Non, mais ça, c'est le parcours, c'est la trame très classique du biopic.
Donc, du coup, le fait qu'on s'habitue au singe ruine totalement le film. Donc, si vous allez le voir, essayez de garder cet étonnement perpétuel que ce soit un singe. Qui joue Robbie Williams.
Une prise de parole du public pour Better Man de Michael Gracie. Non, alors, virgule. C'est l'heure de vos coups de cœur et on commence avec Apprendre, documentaire de Claire Simon. Tu avais la parole et donc tu la gardes, Florence.
Oui, c'est un très beau documentaire de Claire Simon qui est allée filmer dans une école d'Ivry-sur-Seine. À hauteur d'enfant, comme on dit, c'est un peu un cliché pour les films qui parlent des enfants, mais c'est vraiment ça parce que elle adopte totalement une position d'égalité avec les enfants qu'elle filme, qu'ils soient dans la cour de récréation ou qu'ils soient en classe. Et je trouve que ça fait un bien fou dans ces temps où l'école est surinvestie de discours politiques, de sortir du prisme éternel des questions d'identité, de laïcité, pour raconter le quotidien d'une école et ce qui s'y passe vraiment, c'est-à-dire la formation de ces êtres en devenir. On les voit grandir au fil de l'année et on est profondément ému sans qu'il n'y ait jamais de leçons que la réalisatrice cherche à nous donner. Elle fait vraiment exister ces personnages. C'est Apprendre de Claire Simon.
Qui est en salle en ce moment. Pour ma part, ce sera Jane Austen a gâché ma vie, qui est le premier film très réussi de Laura Pianini. C'est le portrait d'une trentenaire d'aujourd'hui qui admire une autrice du 19e siècle, Jane Austen, comme l'indique le titre. Elle s'appelle Agathe, elle travaille dans une librairie anglaise et elle rêve d'un amour à la hauteur de ceux qu'elle lit dans les romans de Jane Austen. Mais Agathe est célibataire, avec une sexualité au niveau de la mère, et elle aspire à devenir écrivain sans réussir à écrire. Et autour de cette femme empêchée, maladroite, très cultivée, donc irrésistible, Laura Pianini a écrit une comédie romantique. Alors rien qu'en disant ces mots, comédie romantique, ça fait désuet parce que ça nous ramène à nouveau, non pas à Take That, mais à tous ces films des années 90 comme Coup de foudre à Notting Hill, Quatre mariages et un enterrement, avec Hugh Grant.
Less in Seattle.
Et d'ailleurs, Laura Pianini joue avec ces références-là puisque l'un des acteurs, Charles Hanson, a vraiment les traits de Hugh Grant. Donc il y a plein de références à la fois drôles et érudites et surtout il y a une comédienne fabuleuse qui s'appelle Camille Rutherford, qui sait être piquante, pleine d'esprit, triviale. Je vous redonne le titre, Jane Austen a gâché ma vie, de Laura Pianini, et c'est en salle depuis 10 jours. Christophe, toi tu as choisi un livre.
Oui, bah, j'aime bien les livres. Moi, tu sais, j'ai choisi un livre, Bardot par Antoine de Bec. Alors Antoine de Bec, c'est un historien que j'aime beaucoup du cinéma, qui est toujours très tatillon, très précis, qui fait des recherches intéressantes. Et là sur Bardot, il a vraiment décrypté le personnage de Bardot en insistant, alors il y a la dimension cinématographique, la relation avec Godard, des choses intéressantes, Vadim, etc. Mais il y a aussi la Bardot politique. Et là, j'ai appris des choses que j'ignorais totalement, c'est que Brigitte Bardot, en 1962, était la cible de l'OAS, que Brigitte Bardot, en 1962, luttait pour l'indépendance de l'Algérie, qu'elle avait refusé de payer un impôt mafieux que l'OAS voulait lui faire payer, elle était protégée par la police, elle a été l'icône de la libération de la femme après, avec des propos féministes très forts. Tout ça pour finir aux côtés de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. Et ça, je dois dire, c'est ça, c'est là où le parcours est incroyable. Et c'est ce que montre très bien Antoine de Bec, en plus de façon très pudique. Mais c'est vrai qu'il y a là un parcours de vie tout à fait saisissant.
Bardot d'Antoine de Bec, qui est publié
aux éditions des Pérégrines.
Muriel.
Alors moi, c'est un film qui s'appelle Working Girls de Lizzie Borden, qui est disponible sur la plateforme Mubi. C'est un film qui se passe entre les quatre murs d'une maison close à Manhattan, dans les années 80. Et là, il y a la valse des clients, il y a les prostituées qui attendent, qui traînent, qui attendent, qui discutent entre elles. Et c'est un film complètement fou, parce que je pense qu'on n'a jamais vu ça au cinéma, et qui appréhende totalement, de manière totalement dépassionnée, dédramatisée, presque tranquille et cotonneuse, la question de la transaction sexuelle et de la prostitution. Et c'est un film assez triste parce qu'on se dit, voilà une cinéaste dans les années 80 qui n'a pas pu avoir la filmographie, la carrière qu'elle aurait pu avoir. Et là, c'est un film vraiment féministe, mais d'un féministe qui, moi, voilà, que je vois très peu au cinéma.
Donc, voilà. Working Girl de Lizzie Borden, qui est disponible sur la plateforme Mubi.
Ouais.
Jean-Marc.
Moi, c'est un premier film qui s'appelle Julie se tait, d'un jeune cinéaste belge, Leonardo Van Digel, qui se passe dans le milieu sportif et qui traite de la question des violences sexuelles et des abus dans le milieu sportif avec une figure d'un entraîneur abuseur. Et au centre du film, il y a une très jeune fille qui donc est très très douée en tennis et qui a été victime, et c'est tout le cheminement intérieur qui va l'amener à prendre la parole. Et le film est très impressionnant d'un point de vue de mise en scène. Il y a un système formel très concerté, très étouffant, qui filme l'étouffement du personnage, mais en même temps ce système formel touche malgré tout à quelque chose d'extrêmement vivant et sensible et incarné, et le film est vraiment bouleversant.
Julie se tait de Leonardo Van Digel. L'actualité du cinéma vue par le masque et la plume, c'est fini. Merci au public du Théâtre de l'Alliance Française et merci à vous quatre, Jean-Marc Lalanne, Muriel Joudet, Christophe Bourseiller, Florence Colombani. La semaine prochaine, le masque sera consacré à l'actualité de la scène, pièces, stand-up et théâtre musical. Guillaume Giraud sur la réalisation du Masque et la Plume. C'était avec Cédric Châtelut, Lucas Derode, Stéphane Touvenin et Benoît Chaudet. Aujourd'hui, Ilinka Negulasco coprogramme et prépare l'émission avec Nina Malray. Et comme vous savez, rendez-vous dimanche prochain, même heure, même motif, sur France Inter, évidemment.